Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Depuis septembre, 26 minutes de face à face chaque semaine avec celles et ceux qui font les séries. Et cette semaine, on s'intéresse à une profession qui fait sens dans le monde des séries et qui a son importance, celle de directeur ou directrice de casting. Ils sont en premier lieu pour décoder, déchiffrer, trouver les perles qui vont alimenter les feuilletons quotidiens et les séries en général dans les prochains épisodes, prochaines semaines, prochaines saisons. C'est dire que leur profession est centrale. On va en parler dans un instant, mais puisque l'on reçoit l'une de ces directrices de casting, il se trouve qu'elle est aussi réalisatrice, qu'elle signe un Icon Film Festival qui est en compétition en ce moment. Je suis ravi d'accueillir l'une des directrices de casting très réputées sur Paris. Bonjour Adèle Esposito.
Bonjour
Je suis
Alexandre.
ravi de vous accueillir. On a évidemment plein de questions à vous poser sur ce beau métier parce que c'est vrai qu'il est mal connu et pourtant, je le disais, il est central sur les séries et notamment les feuilletons quotidiens où il faut perpétuellement alimenter la machine pour qu'il y ait des nouveaux visages. Mais pour l'instant, on vient parler d'un icône. Il est en compétition, on va la voir arriver. La voici, je voudrais être moche comme elle. Un film que vous avez réalisé, qui est en compétition. Et alors, ce qui est la particularité de ce film, c'est que chaque dialogue, chaque bout de dialogue est un titre de film ou un passage d'un film de cinéma.
C'est ça. En fait, quand j'ai commencé à écrire le film, vraiment le thème de la beauté qui est celui de cette année me parlait, parce qu'en tant que directrice de casting, on y reviendra, mais c'est vraiment quelque chose, on va dire l'apparence plus que la beauté, c'est quelque chose d'essentiel dans mon métier. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a décidé à me lancer. Et en fait, très vite, quand j'ai commencé à écrire, parce que j'avais déjà écrit d'autres trucs avant, là, je trouvais que tout avait déjà été écrit et que autant reprendre les dialogues de cinéma, pas forcément hyper connus tout le temps, hein, mais en tout cas qui parlent de la beauté et la difficulté à être jugé sur son apparence, puisque c'est vraiment le corps de mon métier, le jugement quand même.
Évidemment.
Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit ça.
Avec quelqu'un que je connais là de plus belle, il me semble bien. Hein,
De plus
notre
belle, oui, Iñaki.
Iñaki, évidemment, qu'on a reçu il y a quelques mois ici, et qui nous manque d'ailleurs dans Plus belle, parce que son personnage était quand même super. Alors, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, pour le Nikon, le concept est le même pour tout le monde.
Oui.
Ça doit faire 2 minutes 20 et pas une seconde de plus, avec un thème central. C'est quoi cette année le thème
La
de la
beauté.
beauté, tout simplement,
Ouais.
et avec ou pas un twist à la fin.
C'est ça. Oui, ça, il n'y a pas d'obligation. Hein. Ça, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est vraiment, il y a juste le thème et la durée. On peut mettre 150 acteurs. Moi, j'en ai vu un avec des vers de terre. Enfin, vraiment, on fait ce qu'on veut à l'intérieur de ça.
Et après, il faut tenir en 2 minutes 20.
C'est
Quand
ça.
on travaille en tant que directrice de casting sur des séries qui ne s'arrêtent pas,
Ouais.
qui durent toute l'année, comment on fait rentrer ces idées en 2 minutes 20?
En plus, là, c'était tout le challenge parce que c'est un plan séquence. Donc, on a vraiment. Chaque prise était encore plus chronométrée que ce qu'on peut faire en tournage classique parce qu'on savait qu'il fallait que ça rentre en 2 minutes 20. Au final, ça fait le plan séquence en lui-même, hors générique, qui fait 2 minutes 13. Et ça faisait partie du challenge. En fait, moi, je trouvais que le plan séquence, par rapport à l'exercice de
C'est-à-dire pas de
casting,
coupe, hein.
oui,
Voilà.
oui.
Je
Et oui,
schématise, mais pas de coupe.
exactement.
On sait comme si on était derrière la caméra et qu'on la suivait.
C'est ça. Et du coup, je trouve que le plan séquence, comment dire,
Ça donne un rythme particulier?
ouais, ça donne un rythme particulier, ça met de la tension dans ce moment-là qui est en l'occurrence le rendez-vous de casting, on va dire. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ça, de partir de la salle d'attente qui est par là où passent tous les comédiens. Et hop, on file dans la salle de casting.
Ça existe toujours les salles de casting?
Oh bah oui! Comment ça?
Ben parce qu'en fait, spontanément, j'entends tellement de gens qui nous disent aujourd'hui, je fais ma self-tape dans mon coin, que je me dis que presque la salle de casting va devenir un monument d'archives du passé dans quelques années finalement.
Ah non, 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 vraiment pas quand même.
Il y en a
Même
encore
si
besoin.
on en a encore besoin, très clairement, les self-tapes, ça nous rend bien service, on est d'accord. Mais enfin, en tout cas, moi, je vois l'essentiel des comédiens, je les vois en vrai. Enfin, c'est très basique. C'est pareil que d'aller chez le médecin, hein, là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une salle d'attente et puis il y a l'endroit l'endroit où on est reçu. Voilà, ça c'est
pareil. Sauf que quand on va chez le médecin, la consultation commence quand on est dans le cabinet du médecin.
Oui.
Elle commence quand la consultation avec une directrice de casting? Est-ce qu'elle commence dans la salle d'attente selon l'attitude que telle ou telle va avoir dans la salle d'attente avec les autres ou avec... ça commence là un peu?
Un peu, un petit peu, ça peut. Après, quand même, l'essentiel du rendez-vous, il est surtout vraiment quand on est ensemble, quand on est dans le jeu, voilà, et qu'on essaye des choses. Mais très clairement, dans la salle d'attente, où donc en général, on est avec l'assistant, l'assistante, là, forcément, il y a quand même des choses que nous disent nos assistants qui peuvent influencer le résultat final. Mais je dirais que ça, c'est que en cas de négativité, parce que la plupart des comédiens sont quand même hyper sympas, hein, faut quand même le dire. C'est 99% sont très sympas.
Il y a que dans les films qu'on voit des gens qui font des croche-pattes dans la salle d'attente. Mais sinon, voilà, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Là, on peut voter jusqu'à quand?
Jusqu'au 26 mars.
Jusqu'au 26 mars. Et ensuite, il y aura, c'est toujours le cas, 50 courts-métrages qui sont sélectionnés. C'est et ça. Après, il y a un jury qui rentre en compte.
Oui.
Et qui va sélectionner le grand gagnant qui sera arrivé, je crois, au Grand Rex en général, comme c'est toujours le cas.
Exactement.
Qui est le président cette année d'ailleurs? Oh mon Dieu, je ne l'ai pas vu passer non plus cette année.
C'est le réalisateur de Tony en famille, je crois.
Bon, on va le retrouver, c'est pas très grave. Mais je me souviens qu'il y a un an ou deux, c'était la hantise pour plein de gens. Il passait devant Alexandre Astier, qui était le président du jury de Nikon.
Ouais,
et ça fait toujours un peu plus flipper. Je voudrais être moche comme elle. Moi, j'ai eu la chance de le voir. C'est très drôle. Ça m'a fait... On s'en était parlé en off, mais ça rappelle un peu. On connaît la chanson aussi, qui était le film d'Alain René, mais qui lui était vraiment que des paroles de chansons ou que des reprises de chansons, en plus avec le playback dessus. Mais c'est vrai que c'est un peu ce concept-là. Il y a combien d'extraits ou de titres de films différents?
Je crois qu'il y en a 9.
Ah quand même, ça va.
9 c'est pas des films.
Ouais, c'est assez concentré. C'est-à-dire, c'est pas juste des petites punchlines. C'est non. Vraiment des dialogues qui sont installés.
Oui, oui. Et puis enfin, ça dépend. Par exemple, il y a un extrait de Trop belle pour toi, qui dans le film Trop belle pour toi est un monologue. Et là, je l'ai réparti entre deux acteurs qui sont un petit ping-pong. Voilà, ça dépend des trucs. Mais il y a des choses que j'ai vraiment découpées. J'ai modifié beaucoup l'interprétation, on va dire, les femmes qui disent des textes d'hommes ou vice-versa, de découper le texte, voilà, des choses comme ça. Je me suis amusée à l'intérieur de ça, on va dire.
Bon, on va filer d'ailleurs la comparaison et pour passer au métier d'après, en partant justement de Je voudrais être moche comme elle, en parlant d'Iñaki, parce que finalement, ça fait partie des personnes que tu as dû caster. Mais auparavant, un petit souvenir nostalgique, je me suis rendu compte que quand moi j'ai commencé ce métier de journaliste aussi, je m'étais intéressé à la fiction française assez tôt et à ces fictions françaises qui étaient très différentes de ce qu'on voyait à l'époque à la télévision, très différentes, qui osaient des trucs, qui n'ont pas eu le succès escompté, mais que moi j'aimais beaucoup. Et je me suis rendu compte que tu avais travaillé sur l'une d'entre elles, que j'aime beaucoup avec une comédienne. Là encore une fois, le travail de directrice de casting est extrêmement important, qui a fait ses preuves et qui est devenue une très très grande comédienne de cinéma aujourd'hui. On va voir un petit extrait en musique et puis on va voir les souvenirs que ça t'évoque. Bon, allez, un petit indice, on remonte en 2011.
Ouais.
Regardons.
Je pense savoir.
Oh, yes, on va le faire.
Je sais même pas comment vous vous appelez.
On a tous des surnoms.
Allez, venez.
Allez, on va te montrer.
Mais qu'est-ce que vous...
Faut pas croire qu'on est des anges. La vie est dure, mais faut quand même qu'on mange. Je fais des bêtises et des erreurs. Voilà pourquoi mon surnom c'est Gaffeur.
Il y en a plein que ça dérange, mais pas nous, souvent ça nous arrange. Je vois tout sans couleur. Voilà pourquoi on m'appelle Graffeur. J'ai la tête en l'air, pas vraiment les pieds sur terre. Ça n'empêche pas d'être heureuse. Pour cette raison, on m'appelle rêveuse.
Moi, j'ai pas besoin d'adresse. Je ne me prends pas pour une princesse. Ce n'est pas pour autant que je suis malheureuse. Ça dit juste en fait pourquoi je suis boudeuse.
La nouvelle Blanche-Neige en 2011 avec Lou Delage,
oui.
Qui sortait d'une autre série qui s'appelait 1788 et demi, qui était aussi une série très audacieuse et très différente. Et là, l'idée, c'était de rendre version contemporaine de Blanche-Neige. Les nains deviennent des enfants abandonnés, la méchante reine devient une patronne d'une maison de beauté jouée par Claire Kem. Et à l'époque, tu commences, toi, dans ce métier, notamment de directrice de casting, à t'occuper des enfants. Donc j'imagine que tous ceux qu'on vient de voir... C'est toi qui as été chargée de les caster.
Exactement, oui, moi j'ai fait tout le casting enfant et toute la figuration ensuite. Et donc oui, le casting enfant de la Nouvelle Blanche-Neige, c'était incroyable. Parce qu'en fait, il fallait que chaque enfant ait sa propre particularité, aussi bien en termes d'origine qu'en termes de compétences, plus le fait de savoir jouer
et chanter.
Ça a été une grande aventure. Et puis, ils étaient sept quand même. Et puis, sept rôles, c'est vraiment les sept nains. Hein, ils sont très importants. Ils sont tous ensemble tout le temps. C'était très marrant à caster. On a vu beaucoup de monde. C'était très, très, très chouette.
Et c'est une super série. Un unitaire diffusé en 2011 sur France Télévisions qui n'a pas eu le succès escompté, je le disais. Mais voilà, ça fait partie de ces séries que moi, j'avais découvert à l'époque où je démarrais et que j'aimais beaucoup. Il y avait eu 1788 et demi, il y avait eu Clash aussi sur France 2. Enfin voilà, il y avait beaucoup de séries comme ça. Revenons justement plus largement à ce métier de directrice de casting, de directeur de casting et directrice de casting. C'est quoi un bon directeur ou une bonne directrice de casting?
Oula. Je pense que la première qualité, c'est d'être curieux, en fait, parce qu'il faut avoir envie d'aller chercher ailleurs, de découvrir des gens, et puis d'être... je pense qu'il y a vraiment une partie humaine, sociale là-dedans, de pouvoir... d'intelligence sociale, de pouvoir comprendre les gens, d'empathie. Mais d'abord, je pense que c'est la curiosité. Peu importe comment on travaille et où on travaille, que ce soit d'aller au théâtre, de regarder la télé, les plateformes, le cinéma... On a plein de moyens maintenant. On a même les séries YouTube, maintenant Instagram, tout ça. On a vraiment plein d'endroits où chercher.
C'est-à-dire que le boulot, ce n'est pas simplement de recevoir des gens au moment où on fait des castings, c'est aussi d'anticiper en allant repérer les nouveaux visages, les nouveaux talents sur les petites scènes, sur
complètement les
dans les salles, dans les festivals écoles comme aussi, dans les écoles, dans les festivals comme Avignon, enfin des choses comme ça quoi.
Complètement. Il y a plein de chemins différents et après je pense que on est chacun différent là-dessus parce que c'est aussi en fonction de nos goûts à nous en tant que public tout simplement. Mais aujourd'hui encore plus qu'avant, il y a tellement de façons de découvrir des acteurs. Que je pense que la curiosité, c'est vraiment, c'est d'abord ça, d'aller découvrir, d'aller chercher les acteurs, même quand on ne sait pas ce qu'on a à chercher. Mais juste après, je pense qu'on a tous, on aime tous aller voir des pièces, aller au cinéma. Peu importe comment on voit les acteurs, mais je pense que ça fait vraiment partie du métier d'aimer...
D'aimer à les rencontrer, d'aimer les écouter. Quand on va voir passer peut-être quelques photos, parce qu'effectivement, le feuilleton quotidien est très en vogue aujourd'hui. Est-ce que c'est différent fondamentalement son travail quand on travaille sur du feuilleton quotidien ou alors quand on est sur du prime time, par exemple? Parce qu'il faut le rythme à nourrir, la bête à nourrir n'est pas la même.
Oui, en fait... Moi, je trouve que effectivement, la grosse différence, c'est que sur une série quotidienne, globalement, en fait, on est comme les acteurs, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas, contrairement à n'importe quel autre projet qui, à un moment donné, se tourne et les gens sont validés et donc on passe à autre chose. Mais sinon, le métier en lui-même, il est quand même assez similaire, surtout en télévision. Parce que la particularité de la télévision, quel que soit le diffuseur, c'est quand même que donc on va avoir... en quotidienne, les réalisateurs, on est peu en contact avec eux. Hein, c'est vraiment la production qui est vraiment une production artistique, pas que financière. Et ensuite, surtout, c'est la chaîne qui valide...
tel ou tel comédien.
Voilà. Et ça, c'est pareil sur un unitaire. Ça marche vraiment pareil, alors que dans le cinéma, on a un rapport au réalisateur qui est quand même beaucoup plus exclusif, on va dire. Donc c'est en ça où je trouve qu'entre un unitaire et un... Enfin, pas un unitaire, mais en tout cas une série prime time et une série quotidienne pour moi, en dehors du côté que ça dure tout le temps, il n'y a pas une grosse différence en termes d'organisation, en termes d'interlocuteurs aussi. Ça reste quand même beaucoup la production en télé. La production est beaucoup artistique de manière générale. Et c'est beaucoup avec eux qu'on parle du casting, quoi.
Est-ce qu'un bon comédien de quotidienne est forcément un bon comédien tout court? Ou à l'inverse, est-ce qu'un bon comédien qui fera du théâtre ou du cinéma fera forcément un bon comédien sur une quotidienne?
Moi, j'ai tendance à penser que quand ils sont bons partout. Pour faire simple.
Ouais.
Après, je crois beaucoup, mais quel que soit le projet, à la rencontre entre un rôle et un acteur. C'est-à-dire que quand même, globalement, Personnellement, je ne crois pas, en tout cas quand on est sur de la quotidienne, je ne crois pas beaucoup à la construction de personnages hyper cherchés. Et même quand on pense à Anthony Hopkins dans le Silence des agneaux, mine de rien, je ne connais pas Anthony Hopkins, mais j'ai tendance à penser qu'il n'est pas si loin que ça du personnage, même s'il ne mange personne.
Sans sens.
On espère. Voilà. Et donc, je pense que c'est un peu pareil sur une quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout de suite l'énergie du personnage, on l'a ou on l'a pas, en fait. Ouais. Et c'est en ça où je parle de rencontre entre l'acteur et le rôle, quoi.
Votre position, elle est centrale, évidemment, je le disais tout à l'heure, que ce soit une quotidienne ou que ce soit en prime time à la télévision. Comment on fait cohabiter son sentiment d'avoir en face de soi le bon ou la bonne actrice avec un rôle, avec les exigences notamment d'une production, mais peut-être plus encore d'une chaîne, qui elle va te dire, bon, bah, dans ce rôle-là, tu peux te lâcher sur le personnage parce que c'est un personnage qui est secondaire, ou en tout cas qui est un nouveau visage, mais par contre, le héros, il faut que ce soit quelqu'un de connu.
Et ben, on fait cohabiter. Voilà. Je pense quand même, en tout cas, c'est aussi comme ça que je le ressens, c'est qu'on est quand même des exécutants et que très clairement, le patron, c'est la chaîne. Donc, on peut se battre, on peut avoir des convictions, mais à un moment donné, c'est quand même la chaîne qui a le dernier mot. Et en plus, pour se battre et pour avoir des convictions, il faut avoir aussi un producteur, une productrice qui ait les mêmes convictions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, par exemple, en quotidienne, je parle très, très peu à la chaîne. C'est-à-dire qu'en termes d'être humain, moi, c'est à la production que je parle. Mais la chaîne, je connais leur nom, mais c'est tout, quoi, quasiment.
L'exemple qui est derrière nous, je le trouve intéressant parce que c'est le cas de Profilage sur lequel vous avez aussi travaillé. Et on a ce personnage d'Adèle, d'ailleurs. C'est un hasard ?
J'en sais rien. C'est pile le moment où je suis arrivée sur le casting de la série. Mais
Donc c'est vous qui repérez ?
Non.
Juliette, non.
Le casting a été fait... Juliette est arrivée dans la saison précédente. Et on savait que Odile Villemain allait quitter la série. Et ils ont adoré Juliette. Et du coup, ils l'ont fait rester.
Parce que là, c'est typiquement le cas dont on disait tout à l'heure. La rencontre entre personnages qui, d'un seul coup, va au-delà certainement des espérances qui devaient être celles des auteurs, de la production et de tout le monde. Et qui fait exploser le rôle plus que tout le monde aurait pu penser.
Complètement, complètement. Et Juliette et Odile avant aussi, évidemment. Je trouve qu'il y avait vraiment cette force-là dans Profilage d'aller chercher des inconnus, en tout cas sur les deux premières héroïnes. Voilà, c'était super de pouvoir découvrir. Enfin, c'est ça qui est bien aussi dans ce métier-là, hein, c'est de découvrir des gens.
Et au-delà de ça, d'ailleurs, même sur les rôles masculins, parce qu'à l'époque, Guillaume Cramoison était connu, mais c'était pas une méga star.
Oui,
et Philippe Bas non plus, n'était pas non plus une méga star.
Non.
Il avait fait une série pour France 2 qui s'appelait Gréco, mais c'était à peu près ce pourquoi le grand public le connaissait. Donc c'était là aussi, il y avait une vraie partie pris d'aller chercher des choses un peu différentes.
Oui.
Et d'ailleurs, je crois que le process s'est représenté peut-être en saison 6 ou 7 avec cette... alors je ne me souviens plus du comédien, la comédienne qui s'appelait Alexandra. Elle jouait une flic qui devait ouvrir une unité de la police dédiée aux affaires d'un juge qui avait été corrompu et qui... et sur lesquelles il fallait réenquêter sur toutes les affaires qu'elle avait faites. Puis la série n'a jamais été faite. Mais ça sentait qu'on voulait faire une série dérivée à Profilage et que la comédienne Alexandra Roots, je crois que c'est ça.
Exactement.
Ça m'est revenu d'un seul coup. Mais voilà, pareil, c'est le genre de choses qui se passent en casting, ça. C'est là.
On
les repère, quoi.
C'est vrai, il y avait le projet du spin-off de Profilage avec Alexandra. Alexandra avait été castée pour ça. Et finalement, le spin-off ne s'est pas fait.
C'était pourtant une super idée. Oui. Revenons plus largement. On imagine, on est dans la salle de casting. On va poser des questions un peu bêtes, mais c'est quoi un bon casting réussi ?
Alors,
à quoi vous voyez qu'un casting est réussi malgré le fait que peut-être la prestation qu'on fait, elle n'est pas forcément au top ?
Bah, en fait, il y a quand même quelque chose, même quand il y a des ratés et tout, on voit bien si l'acteur, l'actrice est le personnage ou pas, est dans la bonne énergie. Moi, j'en ai quand même vu plein qui n'ont pas fait des essais parfaits et où quand même ils ont eu le rôle parce qu'à un moment donné, il y a une évidence et qu'elle traverse tout, en fait. Très clairement, et ça, je pense que tous mes collègues vous diront à peu près la même chose. Il y a quand même des moments où il y a des évidences, et ces évidences, elles sont évidentes pour tout le monde, et pas que pour nous, pour le réal, la prod, la chaîne, enfin, peu importe sur quoi on travaille.
Tout le monde se met d'accord, quoi.
Ouais. C'est quand même... je dis pas que ça arrive tout le temps, mais c'est quand même aussi quelque chose qui arrive, on va dire, une fois sur deux, à peu près, quand même, et ce... Oui, il y a des fois où on se rate, où il y a des bégaiements, des choses comme ça. Mais c'est pas grave tout ça, en fait. Si la personne est dans la bonne énergie et si c'est pas 28 bégaiements en une minute, tout va bien aussi. C'est aussi la vie, quoi, de se rater un peu, de, je sais pas, un truc qui tombe par terre qui n'était pas prévu. Voilà, des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir le rôle, quoi.
Qu'est-ce qu'on conseille ou déconseille de faire à quelqu'un qui vient passer un casting ? Là, on reste vraiment dans le domaine de ces grosses productions et ces grosses machines. Quand vous avez quelqu'un, vous voyez manifestement, il n'a pas réussi son casting, mais vous avez envie de l'accompagner, de l'aider, et vous avez envie de donner un petit conseil, vous lui diriez quoi pour améliorer ce qu'il a pu faire ? Il y a autant de cas de figure, évidemment, que de personnes, ouais. mais le conseil qui peut être appliqué à tout le monde pour réussir un casting ?
Alors, le conseil, très clairement, c'est le texte. C'est de connaître son texte, parce qu'après, en fait, l'exercice de casting, ben, c'est comme un entretien d'embauche. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement stressant. Et il y a plein de petites choses qui peuvent être stressantes. Et donc, déjà, si on est solide sur son texte, ça libère.
Ça sécurise.
Voilà, ça sécurise. Donc, moi, c'est quand même ce que je dirais le plus. Parce qu'après, en fait, il y a tellement de particularités que c'est difficile de faire une grosse généralité parce que en fait il y a des gens qui vont avoir raté mais qui sont bien, il y a des gens qui ont raté mais on voit ils sont pas bien, et donc bah des fois on est là genre bah il y a
ça pourra pas
pour personne voilà, c'est donc mais je pense que le texte, même s'il y a aussi beaucoup de castings qui se font en improvisation, mais quand même on va se dire que dans 80-90% des cas voilà, être solide sur son texte, je pense que c'est vraiment le premier truc, la base.
Comme vous l'avez dit, vous êtes des exécutants, exécutantes. Ça veut dire qu'effectivement, c'est la production, la chaîne qui a son mot à dire.
Ouais.
Mais est-ce qu'il arrive parfois qu'on se retrouve dans la situation où on sait qu'on va trouver quelqu'un et où il faut arriver à convaincre l'étape du dessus qu'on a fait le bon choix et que c'est vraiment la bonne personne ? Est-ce que ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé, mais pas en télévision. Ça m'est arrivé sur le casting du Cœur des Hommes 3 pour le fils de Marc Lavoine, justement, ouais. Sur un casting enfant, où très clairement, il y a eu un gamin qui est venu, qui lui ressemblait, qui était vraiment hyper bien. Et des fois, en casting, entre le ressenti en vrai et ce qui se passe à l'image, finalement, il y a une différence. Et là, c'était le cas. Et donc du coup j'en ai parlé avec le réalisateur, on a vu les essais, il était pas emballé de prime abord, et je lui dis mais si voyons-le, et puis de toute façon il était prévu un callback avec Marc Lavoine, et on a fait le callback, et là ça a été évident parce que dès qu'ils l'ont vu dans son énergie, dans son physique aussi, c'était net.
Ça arrive, ça, c'est l'effet magique,
ouais.
D'une rencontre qu'on a faite. Sur les séries, pour revenir à elles, vous voyez passer des tonnes de comédiens tout le temps. Est-ce que vous voyez le regard qui a changé sur ces productions aussi, où avant, on y allait en se bouchant le nez, en se disant « ça me fera des images », et où maintenant, tout le monde se précipite pour venir et pour avoir envie de passer le casting. Je vois tous les ans, quand les ITC annoncent qu'ils vont caster pour la prochaine rentrée de l'Institut, on voit que la jeune génération se précipite. Ça a changé, ça ?
Énormément. Parce que moi, j'ai d'abord travaillé sur Plus belle la vie, France 3, et très clairement, entre quand j'ai démarré, donc il y a 10 ans avec eux, on prenait énormément de refus. On avait, je sais pas, quand je fais des listes de noms à contacter, et j'en avais quasiment la moitié qui refusaient le rendez-vous. Là, ça n'existe plus. Voilà, là, quasiment, enfin, ça arrive toujours que les comédiens ne soient pas libres pour X raisons, mais c'est rarissime. Voilà, globalement, ils sont tous d'accord et tous disponibles, ce qui montre aussi que le métier est devenu plus difficile, puisque ça veut dire qu'ils ont moins de travail. Mais en tout cas, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais une liste de gens que je veux voir, globalement, je les vois. Voilà. Alors qu'avant,
c'est plus compliqué aujourd'hui de vous dire que moi qui ai 22 ans, j'ai pas envie de faire Plus belle la vie ou Demain nous appartient. Alors vous avez Francis Huster, Catherine Marshall ou tant d'autres qui eux le font et ne se bougent pas le nez.
Oui.
Donc c'est quand même compliqué quoi d'arriver avec ces arguments-là.
C'est ça. Même si très clairement sur la jeune génération, dès qu'ils commencent à avoir fait un peu quelque chose,
ils pensent qu'ils sont finis et que c'est arrivé.
Voilà, c'est ça. Et qu'ils espèrent que les plateformes, les prime time, le cinéma va les appeler. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Hein.
C'est le cas de Iñaki qu'on a vu dans Sous la scène
oui.
Pendant qu'il était sur Plus belle la vie, où il a obtenu un petit rôle. Il est assez vite bouffé, mais,
oui.
Mais il a un petit rôle intéressant. Tiens, on parlait tout à l'heure de quelqu'un que moi j'aime beaucoup, mais qui ça m'intéresse du coup d'avoir votre point de vue, parce que c'est l'actrice Zoé Laïb, mm-hmm. parce qu'elle était sur Plus belle la vie France 3, où elle avait... Ah si, elle avait un petit rôle sur Plus belle la vie France 3. Voilà. Disons, j'ai ma réponse. Parce que, et elle atterrit sur Plus belle la vie TF1 dans un autre rôle.
J'étais pas au courant.
Iñaki, c'est vrai
c'est le cas d'Iñaki aussi.
Ouais.
Iñaki, ça je le savais, mais Zoé, je le savais pas.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle avait un personnage qui finissait par mourir, je crois, assassiné. Je crois que c'était une militante écologique sur une plage.
D'accord.
Et elle avait comme très bonne amie, Nisma. Mais c'était pas le même personnage. J'avais demandé si c'était le fait de passer sur une autre chaîne à la directrice de casting qui se dit ouais elle on l'a pas gardée assez donc on va la réemployer ou pas du tout. Non là c'est un hasard alors.
C'est un pur hasard, vous me la prenez. Donc voilà. Iñaki, je vous dis vraiment je le savais surtout qu'on l'avait d'abord casté c'était moi qui l'avais casté sur Demain nous appartient où il avait eu un petit rôle et quand le rôle quand on a relancé Plus belle sur TF1 et qu'on a vu le rôle de Samuel, moi c'est vraiment il était en haut de la liste. J'étais sûre que c'était lui et on en a parlé avec son agent parce que il s'était écoulé peu de temps entre DNA et Plus belle et en plus il avait joué genre un an et demi avant un rôle dans Plus belle la vie France 3. Donc, sur le papier, il partait pas avec le meilleur CV, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Faut expliquer que pendant très longtemps, aux gens qui nous regardent, pendant très longtemps, on ne pouvait pas passer d'une série à une autre. Maintenant, c'est un peu plus courant, mais quand vous aviez fait une série, en général, vous étiez foutu, vous ne pouviez pas faire les autres.
C'est ça. Et surtout, en plus, là, comme il avait fait Plus belle France 3, où on l'avait quand même bien vu, et récent, c'était quand même assez récent, même si du coup, voilà, Zoé, je ne savais pas. du coup, c'était ça le premier handicap. Hein. C'était vraiment le fait qu'il ait fait Plus belle France 3, mais il a fait ses premiers essais, et quand je l'ai montré, j'ai tout de suite prévenu la prod qu'évidemment, il y avait tout ça. Mais en fait, quand il y a une évidence, on s'en fout.
On s'en fout et on la garde.
Voilà.
Et on l'a... C'est vrai que ça a été une très belle évidence. Pour terminer, si on met de côté Iñaki, mm-hmm. Est-ce qu'il y a comme ça 2-3 acteurs qui sont dans un de ces feuilletons sur lesquels vous avez travaillé, que vous aviez repéré dès le casting et où vous êtes super content qu'aujourd'hui ça marche et que ça fonctionne bien pour lui ou pour elle?
Oui, moi j'aime beaucoup dans Demain nous appartient, et là c'est le vide,
non.
c'est un nouveau lycéen, c'est le fils de la proviseure.
Oui, de Charlie Bousquet, oui, bien
voilà.
sûr.
Voilà, et son nom m'échappe complètement, mais sinon on peut parler de Carla Roturier aussi, qui a été super, tout de suite.
Vous avez les par The Voice.
Voilà, les par The Voice, on cherchait un personnage pour celui de Carla, on cherchait une nana un peu... pas trop lisse, quand même un peu rentre-dedans, on va dire. Et elle était vraiment super. Tout de suite, ils l'ont validée sans callback. Enfin, ça a été un coup de cœur immédiat.
Et sur Plus belle ?
Sur Plus belle, Zoé.
Iñaki et Zoé.
Ouais, ouais Zoé, beaucoup. Zoé, ça a été vraiment un gros coup de cœur. On l'avait déjà vu en casting sur le personnage de Morgane.
D'accord, elle aurait dû être flic.
Voilà, elle a failli être flic, et puis donc finalement non. Et donc elle a eu le rôle de l'avocate, où elle était vraiment, elle était super, alors qu'on n'a jamais réussi à la voir en vrai et tout. Mais
et son binôme avec Jérémy Charvet fonctionne
à fond les ballons.
À merveille. Mmh. C'est vous en général qui faites passer un comédien sur évidemment plusieurs rôles, mmh. Et qui dit, tiens, je vais penser plutôt à lui alors pour un autre rôle, quand on doit faire la bascule, comme là avec Zoé, sur... Ou ça vient après à la prod qui se dit bon elle est bien, on va la tenter là-dessus.
Non, c'est plutôt moi.
C'est
ça arrive que ce soit la prod aussi, hein, mais en général c'est plutôt moi qui pense aux gens qu'on a bien aimés sur un autre personnage et où ça pourrait marcher là. En général la prod aussi, hein, mais c'est quand même plutôt de mon côté.
c'est un rôle central, la directeur ou la directrice de casting, et notamment sur ces séries-là, pour assurer ce rendement permanent, perpétuel, avec des nouveaux visages. Et on le dit, mais comme en France, les arches sont très courtes, 3 à 5 semaines. Ça veut dire qu'à chaque fois, quasiment, il faut renouveler ces gens-là, aller chercher des gens, des nouveaux visages, des gens connus ou pas. Mm. Je pense à Julie Gray qui vient d'arriver sur la série dans un rôle aussi. Enfin voilà, il y a plein de d'acteurs et qui doivent leur passage dans la série à cet élément essentiel qu'est le casting, qui fait peur à plein de gens. Et on espère en tout cas avoir pu vous orienter. Et puis vous le savez, quand on est directeur de casting, on peut aussi... Et ces métiers du cinéma, c'est des métiers de réseau et c'est des métiers de contact. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger cette partie-là, parce que regardez, on peut être directrice de casting, puis quand on décide de se lancer dans le film, quand ça se passe bien avec des gens comme Iñaki, on les fait venir et on travaille ensemble. Et ça donne ce court-métrage que je rappelle, « Je voudrais être moche comme elle », qui est au Nicolm Film Festival. « Je voudrais être moche comme elle », oui, c'est ça. Oui. Que vous avez réalisé à Dallas Bosito en vote jusqu'au 26 mars. Et puis ce sera courant avril, je pense qu'il y aura la finale au Grand Rex. On va croiser les doigts. Et en attendant, continuer effectivement à exceller dans ce domaine, puisque sur le film est très réussi. Et puis le casting vous semble bien vous réussir aussi, puisque on a plein de jeunes comédiennes et comédiens qui excellent dans ces séries-là, qui ne sont pas des sous-genres. Je le tiens à le dire, je le répète sans arrêt. Et la preuve, il y a de très très grands comédiens. Je pense à Zoé, on en a parlé, mais je pense à Marie Hénérez, qui a livré des prestations, notamment avec la maladie de son personnage, incroyable. Voilà, il y a de très grandes choses qui se passent sur les feuilletons quotidiens et on ne cessera de le dire dans cette émission. Merci de nous avoir fait le plaisir d'avoir été avec nous, Adèle. Je voudrais être moche comme elle, donc jusqu'au 26 mars en vote, allez-y. Et puis surtout, allez vous faire plaisir de le regarder. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Merci à Nicolas, qui était en régie pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le club et puis la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Loi des Séries. Merci à tous. Très bonne semaine.